Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du Cantique des Cantiques pour lire le texte de base de la prédication de ce matin. Nous aurons deux lectures, une dans le Cantique des Cantiques et ensuite une dans les psaumes, parce que dans les psaumes, il y a aussi un cantique d'amour, nous allons le voir. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5. C'est où nous étions arrivés la dernière fois. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. » Qu'est-ce qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, dans une brume de myrte, d'encens, de toutes les poudres de parfumeurs? C'est la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, parmi les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, exercés au combat. Chacun porte l'épée au côté en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait un palanquin en bois du Liban. Il en a fait des colonnes en argent, le support en or, le siège de pourpre, l'intérieur a été brodé avec amour par les filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, contemplez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses noces, le jour de la joie de son cœur. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dévalant la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Elles ont toutes leurs sœurs jumelles, aucune d'elles n'en est privée. Tes lèvres sont comme un cordon écarlate et ta langue est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. Les 1000 boucliers y sont suspendus, tous les écus des héros. Tes deux seins sont comme deux petits jumeaux d'une gazelle qui pèsent parmi les lys avant qu'un souffle la brise du jour et que les ombres fuient. J'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, ma compagne. En toi, point de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards, par une seule maille de tes colliers. Que de beauté dans ta tendresse, ma sœur, ma fiancée. Combien ta tendresse vaut mieux que le vin et la senteur de tes parfums que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et la senteur de tes vêtements est comme la senteur du Liban. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée. Tes ruisseaux arrosent un verger de grenadiers aux fruits exquis, avec des troènes et du nard et du safran, du roseau aromatique, du cinnamome, avec tous les arbres qui donnent de l'encens, de la myrrhe et de l'aloès, avec tous les meilleurs aromates. C'est une source des jardins, c'est un puits d'eau vive, ce sont des ruissellements du Liban. Éveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin et que ces aromates s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits exquis. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je recueille ma myrrhe et mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de tendresse. Jusqu'ici la lecture dans le Cantique des Cantiques. Et nous allons lire un psaume, le psaume 45, qui a sûrement été écrit pour un jour de mariage. Psaume 45. Psaume 45. Au chef de chœur sur les lys, poème des fils de Corée, chant d'amour. mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils d'hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Saint ton épée à ton côté, vaillant guerrier, ton éclat et ta splendeur, oui, ta splendeur. Élance-toi, monte sur ton char, pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice. Que ta droite te montre des exploits formidables. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Depuis les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes favorites. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton seigneur. Prosterne-toi devant lui. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches des peuples, recherche ta faveur. Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Son vêtement est fait de broderies d'or. Elle est conduite au roi vêtue de ses habits de couleur. Et derrière elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les conduit au milieu de la réjouissance et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes fils prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai le souvenir de ton nom de génération en génération. Aussi, les peuples te célébreront éternellement et à perpétuité. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et c'est maintenant donc le temps de la prédication. Vous avez déjà vu un jardin avec des belles fleurs, avec des beaux fruits? Eh bien, un jardin sans eau ne peut donner de fleurs ou de fruits. Il a besoin d'eau. Eh bien, comme notre étude de la Bible ne peut porter du fruit sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous comptons sur lui encore aujourd'hui pour que le jardin de notre cœur fleurisse de ses enseignements. Vendredi passé, j'ai donné une conférence dans le cadre des soirées ACD au commencement Dieu qui avait pour titre « Sexualité made in Dieu ». C'était une présentation du livre de Paul David Tripp du même titre. Alors, la programmation de cette conférence et de la série du Cantique des Cantiques n'a pas été faite de manière coordonnée. C'est dans sa providence, en fait, que Dieu a permis que cela se passe en même temps. Alors, je ne vais pas développer tout ce que j'ai transmis lors de cette soirée, aujourd'hui. Mais il est évident qu'on va pouvoir faire des liens, puisque la sexualité qui est présentée de manière positive, encourageante, passionnée, respectueuse dans le Cantique des Cantiques, est une référence importante que je n'ai même pas vraiment développée vendredi d'ailleurs. Alors, c'est pas que j'ai pas voulu, mais ou que je l'ai oublié. Mais je me suis retenu sur beaucoup de points pour rester sur cette idée d'appliquer l'Évangile à notre sexualité. Nous avons donc été plutôt sur les fondements qui permettent à la sexualité d'être bien vécue plutôt qu'une exposition du comment vivre tout cela. Donc je vous encourage à écouter ou à reprendre cette conférence qui, pour moi, je pense, devrait être entendue de tous. Mais le but poursuivi de Cantique des Cantiques que nous allons voir aujourd'hui va nous mener jusque dans la chambre d'une nuit de noces. Oh, mais ne craignez rien. Il y aura assez d'éléments pour que ceux qui le vivent déjà puissent comprendre et assez peu de descriptions, de détails pour que cela ne pousse pas à des pensées impures. Rappelons-nous quelques éléments de base afin de comprendre le contexte de compréhension choisi pour ce texte biblique magnifique, mais parfois déroutant du Cantique des Cantiques. Donc ce texte n'est pas un récit ou une prophétie. c'est un écrit de sagesse écrit sous forme d'un chant d'amour oriental. Voilà. Ça, on l'a déjà vu ensemble, mais simplement, je le répète, que ça soit clair et qu'on l'ait en tête, c'est important. Dans ce chant d'amour, nous entendons deux personnes qui s'aiment nous raconter, nous faire vivre leur amour avec parfois un cœur ou une voix qui se fait entendre. Nous avons distingué dans ce livre trois parties principales. La première qui était le temps des fréquentations jusqu'au chapitre 3, verset 5. C'est le premier verset qu'on a lu aujourd'hui. Et donc nous avons terminé la dernière fois cette première partie. Et nous entrons dans la deuxième partie qui est donc l'union, le mariage. Et que nous allons voir en une prédication. Et ensuite nous aurons encore trois prédications sur la vie commune dans le cadre du mariage. Ensuite, nous voyons encore un quatrième élément, nous voyons un texte qui parle de deux personnes réelles qui ont vécu et qui chantent. Il s'agit de Salomon, sûrement pour son premier mariage, et c'est avec la Sulamite qu'il a cet échange ici. Et nous voyons des éléments utiles pour réfléchir à la vie de couple, pour s'y préparer, pour le vivre ou même pour l'encourager, en étant aussi célibataire. Cinquième chose à avoir en tête, ce texte est aussi un type, une figure, une image qui pointe vers une relation entre Christ et l'Église, entre Dieu et nous. Nous avons donc terminé maintenant le temps des fiançailles. Nous avons terminé le temps des fiançailles qui contenait l'éveil de l'amour et l'engagement de l'amour. C'est les deux prédications qu'on avait eues ensemble. Nous avons terminé ce temps des fiançailles qui contenait l'éveil de l'amour et l'engagement de l'amour. Nous avions laissé la compagne qui chantait son rêve où elle cherchait son bien-aimé, vous vous souvenez, elle le cherchait, et puis dès qu'elle l'a trouvé, elle ne voulait plus le lâcher jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Vous vous souvenez, parce qu'on avait vu ça ensemble. Et elle a tous ses sens en éveil qui lui faisaient soupirer après l'union, après son bien-aimé, et là elle a pressé le bouton pause. Vous vous rappelez ? « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. » C'est là que nous nous étions arrêtés la dernière fois. Avec Cantique 3, verset 6, nous passons à un autre tableau. Et en fait, nous passons au moment qu'elle attendait avec tant de ferveur, le jour du mariage. Et j'ai choisi de parler de ce jour du mariage en une seule fois, parce que c'est un tout, mais nous verrons cela en deux parties, qui chacun aura plusieurs éléments. Nous allons voir d'abord l'union publique, donc le mariage où tout le monde entoure les mariés, ce sont les versets 6 à 11 du chapitre 3, ce sera donc notre premier point, l'union publique. Et ensuite, le chapitre 4 et le premier verset du chapitre 5 nous parlent de l'union privée. On pourrait dire de la nuit de noces, ou tout simplement le moment où l'un et l'autre se découvrent, se donnent l'un à l'autre dans l'union la plus intime que nous pouvons vivre en tant qu'humains. Ce sera notre deuxième point, l'union privée. On va commencer par l'union publique. Donc le mariage est une déclaration d'alliance et une demande de bénédiction de cette alliance. Ces deux aspects font partie du mariage et dans notre contexte, eh bien, on a séparé ces deux choses. Ça, on ne l'a pas choisi, ça fait partie du contexte dans lequel on vit. Et le contexte dans lequel on vit, eh bien, il y a le mariage civil qui est la déclaration de l'alliance et le mariage à l'Église qui est la demande de bénédiction sur cette alliance. Or, dans le Cantique des Cantiques, ici, tout n'est pas expliqué. C'est même plutôt des impressions qui nous sont données et quelques aspects de ce qui était vécu de cette union publique qui n'était pas vécue dans le même contexte que nous. C'est intéressant de se rendre compte que ce n'est que dans cette section que Salomon est appelé roi. Ce n'est que ici. Vous pouvez lire tout le reste du Cantique des Cantiques, nulle part ailleurs. Et je ne pense pas qu'il s'agisse premièrement du titre politique de roi, mais de ce sentiment très fort pour la Sulamite que c'est son roi. Nous verrons dans ce passage du mariage ou de l'union publique trois parties. La première, c'est une préparation somptueuse. Ensuite, nous verrons une protection efficace et nous terminerons par un passage joyeux. Vous dites, tu vois ça dans le texte ? Ben, on va voir, justement, je vais vous l'expliquer. La compagne chante, hein, c'est la compagne qui chante cette première partie. Enfin, il semble que c'est elle. Certains disent que c'est un chœur. Bon, je penche plutôt pour que c'est elle qui le chante. Elle se rappelle de tout cela. Et elle chante ce jour extraordinaire qu'elle attendait. Et là, comme maintenant on en a pris l'habitude, ben souvent je paraphrase un petit peu les choses pour qu'on les comprenne un peu avant de nous plonger dans ce texte. Et si je paraphrase ici ce texte, elle dit ceci, « Le cortège nuptial est magnifique. Tout a été préparé avec soin. Cela sent l'amour. Les moyens y ont été mis pour que ce soit beau et que le mariage commence dans de bonnes conditions, entouré par des personnes qui nous aiment. » Voilà un peu ce qu'elle dit dans cette, avec ces mots, avec la poésie orientale dont on a moins l'habitude, évidemment. Quand on commence à regarder le verset 6, qu'elle dit « Qu'est-ce qui monte du désert comme des colonnes de fumée dans une brume de myrte et d'encens, de toutes les poudres du parfumeur ?» C'est la litière de Salomon. Et ensuite au verset 9, « Le roi Salomon s'est fait un palanquin en bois du Liban. » Il en a fait des colonnes en argent, le support en or, le siège de pourpre. L'intérieur a été brodé avec amour par les filles de Jérusalem. C'est la venue depuis le désert. Vous avez vu, c'est ce qui est dit au début. Qu'est-ce qui monte du désert ? La venue depuis le désert, parce que le désert, c'est un symbole d'apprentissage, de mise à l'épreuve, de temps de maturation. C'est en fait après le désert que le peuple est entré dans le pays promis. Donc c'est la venue depuis le désert, symbole d'apprentissage, de mise à l'épreuve, de temps de maturation. C'est après le désert que le peuple est entré dans la terre promise. Les parfums indiquent l'odeur de l'amour que nous retrouvons partout dans le livre des Cantiques. J'ai failli prendre du temps pour vous parler de la myrrhe et de tout partout, mais j'arrive pas, il y a trop de choses à dire. On reste sur les choses simples. Mais pour vous dire que partout dans ce livre, il y a l'odeur de l'amour, partout. Et ne cherchez pas à dire que cette odeur veut dire cela, parce que vous serez embêté, parce que dans d'autres contextes, dans le même livre, ça veut dire autre chose. C'est l'odeur de l'amour qui est là. L'impression des colonnes de fumée est qu'il y a du monde. Un mariage, ce n'est en principe pas quelque chose que l'on vit en secret. La mariée et le marié vont se rejoindre. La litière de Salomon va rencontrer le palanquin de Salomon. C'est deux choses différentes, ce n'est pas la même chose. Ils vont se rencontrer. Et toutes sortes de préparations. Pour ceux qui se sont mariés ici, est-ce que vous pouvez vous souvenir de tous les préparatifs pour le mariage ? Pourquoi tant de peine ? Pourquoi tant de temps pour préparer ce mariage ? Eh bien, parce que le mariage est un jour très important dans une vie. Le mariage est un jour très important dans une vie. C'est l'union de deux destinées pour le temps de pèlerinage ici-bas. C'est très important le mariage. C'est pour ça qu'on y met du temps, qu'on s'investit pour les préparations, pour vivre ce jour, parce que c'est l'union de deux destinées pour le temps de leur pèlerinage ici-bas. C'est pourquoi il est préparé avec tant de peine et que tout est mis en œuvre pour que rien n'en manque pendant et après le mariage. On pourrait s'arrêter sur tous les éléments de détail qui nous sont donnés, sur les matières qui sont utilisées, etc. Ça nous montre en fait que tout est mis en œuvre pour qu'on puisse bien vivre ce temps-là et après aussi. Et savez-vous que notre bien-aimé céleste, notre époux spirituel Jésus-Christ, nous prépare une place encore plus magnifique que la litière de Salomon et même son palanquin. Pour tous ceux qui sont en Christ, quand nous sortirons du désert de notre pèlerinage terrestre, la litière de Christ nous amènera vers son palanquin, son trône céleste, pour vivre éternellement dans la terre promise du royaume de notre époux. Un royaume où rien ne manque et où tous les élus se réjouissent d'accueillir leurs semblables, comme les filles de Jérusalem qui étaient heureuses de préparer la venue de la bien-aimée. Mais j'aimerais revenir maintenant au verset 7 que je n'ai pas lu avant. J'ai vu le verset 6 et puis ensuite je suis parti au verset 8. Parce que c'est notre deuxième point ici, une protection efficace. La Shulamite se souvient de son arrivée, elle précise une chose, et si je paraphrase ceci, elle dit « J'étais protégée, personne ne pouvait me faire du mal, même dans les temps difficiles. » Si vous regardez le verset 7 et 8, « Elle a autour d'elle 60 vaillants hommes, parmi les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, exercés au combat. Chacun porte l'épée au côté en vue des alarmes nocturnes. » Il est intéressant de voir ici qu'il y a des acteurs extérieurs au bien-aimé et à la bien-aimée pour la protection. 60 vaillants hommes. En fait, la pureté du mariage ne peut pas être préservée seule. Nous avons besoin les uns des autres, quelle que soit notre situation. Nous avons besoin les uns des autres pour préserver le mariage, pour préserver la pureté du mariage. Donc la pureté du mariage ne peut pas être préservée seule. Nous avons besoin les uns des autres, quelle que soit notre situation. Et les personnes en charge d'autorité ont particulièrement une grande responsabilité dans ce domaine. Les parents envers leurs enfants à la maison. On a même vu vendredi soir qu'on a une habitude de le faire qu'il faudrait peut-être changer dans ce domaine. Bon, là, je laisse le suspense. Il faudra l'écouter. Ou les profs envers les élèves ont un grand impact aussi. Ou même les anciens envers les membres dans leurs églises ont un rôle important à jouer pour la protection du mariage. Ça se vit ensemble. Et là, quand on regarde à cette relation maintenant entre Christ et l'Église, dans sa grâce, Dieu protège la relation de Christ avec l'Église. Et il le fait de diverses manières. C'est vrai qu'on pourrait parler des anges qui exercent un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Hébreux 1,14 nous en parle. Mais aussi à travers d'enseignements bibliques fidèles de sa révélation, qui nous permet de garder fidèles. Il est même dit dans la parole de Dieu que rien ne pourra éliminer son Église, elle est protégée. Il la garde comme la prunelle de ses yeux. C'est d'ailleurs notre assurance que Dieu garde son Église. Pas que nous sommes les gardiens de son Église, que lui garde son Église. Je peux être dans la paix, car ce n'est pas sur l'amour que j'ai sur Dieu que je compte, mais sur l'amour que lui a pour moi. Vous voyez ? Donc je peux être dans la paix, parce que ce n'est pas sur l'amour que j'ai pour Dieu, et je veux toujours en avoir plus, évidemment, mais je ne compte pas sur cet amour-là, je compte sur l'amour que lui a pour moi, qui est un amour qui jamais ne faillira. Son amour est tel qu'il termine ce qu'il commence. Un amour qui guide, qui ne laisse pas s'égarer. Un amour qui a été jusqu'à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux pour me sauver. Et passons à un troisième élément de l'union publique que j'aimerais souligner ici, que j'ai intitulé « Un passage joyeux ». Alors, au verset 11, c'est un appel à la joie qu'elle chante ici. Elle dit en paraphrasant, « Venez voir mon roi, il prend avec lui tout ce qu'il a appris de sa mère qui le laisse aller, c'est le jour du mariage, il est heureux. » Bon, je vous le lis en format cantique oriental. « Sortez, fille de Sion, contemplez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses noces, le jour de la joie de son cœur. » Alors pour ceux qui disent que dans le Cantique des Cantiques, il n'y a pas de mariage, nous voyons ici quand même qu'il s'agit quand même de noces, de jour des noces. Et c'est un jour de joie qui est indiqué ici clairement. Et la mère de Salomon est mentionnée ici, elle le couronne. En fait, elle lui a donné tout ce dont il avait besoin pour entrer dans le mariage. Elle le couronne. Le père confie sa fille à son gendre pour qu'il en prenne soin et prenne autorité sur elle, donc une autorité biblique et comprise, c'est-à-dire qu'il donne la direction en servant et en prenant soin. Et la mère a préparé son fils pour sa belle-fille et leur nouveau foyer. En fait, elle a couronné son fils en le formant, en le préparant à être un mari aimant qui est capable de servir et prendre soin. Peut-être c'est une belle couronne, ça. Hein ? Donc la mère a préparé sa fille pour sa belle-fille et leur nouveau foyer. Elle a couronné son fils en le formant, en le préparant à être un mari aimant qui est capable de servir et prendre soin. On pourrait dire tout pratiquement que chaque maman devrait s'assurer que son fils comprenne comment prendre soin de sa future femme. Avec des connaissances pratiques de toutes sortes. Il devrait être capable même de faire la cuisine, de connaître les aliments. Il sait faire les nettoyages, la lessive, payer les factures, faire des courses. Qu'il sache un minimum quel médicament utiliser ou quelle tisane serait utile, pourquoi, ou etc. Ou toutes sortes d'autres choses utiles, évidemment. C'est ça la couronne. C'est magnifique. La mère le couronne, c'est elle qui vient le couronner. Cela signifie qu'elle a formé son beau-fils pour sa future belle-fille et non pour elle-même. Parce que la mère n'a pas besoin de son fils, elle a un mari. Elle trouve dans son couple avec son mari tout ce dont elle a besoin et ensemble, ils se réjouissent d'un nouveau foyer qu'il va se former. Il y a de la joie dans les mariages. Parce qu'eux ensuite vont, par la grâce de Dieu, avoir des enfants, transmettre et se réjouir de nouveaux mariages, etc. Au jour des noces, la joie remplit le cœur du roi de la journée, du bien-aimé qui a tout préparé, qui s'apprêtera à accueillir sa bien-aimée pour commencer à en prendre soin. Et là, si on commence à réfléchir à l'aspect spirituel que l'on peut voir aussi ici, mais quelle joie Jésus-Christ aura le jour de l'agneau. Franchement, il faudrait mettre tous les mariés heureux du monde ensemble, tous, pour n'arriver qu'à une pâle image de la joie qui anime Jésus face à son épouse. C'est une joie qui dépasse notre imagination. Mais commencez à saisir ce que ça signifie. Il sera heureux de nous accueillir, d'une joie qui est plus grande que ce qu'on peut imaginer. Donc, quelle joie Jésus aura le jour des noces de l'agneau. Il faudrait mettre tous les mariés heureux du monde ensemble pour n'arriver qu'à une pâle image de la joie qui anime Jésus face à son épouse. Quel puissant encouragement de savoir que Jésus sera dans une joie immense lorsque nous serons réunis à lui. Et le jour des noces est suivi par l'union privée des mariés. Et une fois n'est pas coutume, la Bible ouvre un peu le voile sur ce qui se passe tout en restant sobre. Et sur notre deuxième point, l'union privée. Et ce sera dans cette partie que sera nommée cette personne, pour la première fois, ma mariée. Vous ne l'avez pas avant ? Bon, on n'a pas lu ça dans la traduction de la Colombe, qui traduit « ma fiancée ». Mais j'ai trouvé intéressant d'apprendre que le terme utilisé pour « ma fiancée » est un terme hébreu qui tire son origine d'un verbe qui signifie « compléter »,« parfaire »,« rendre parfait », mais aussi « couronner » et « orner ». Je connais même quelqu'un qui dit que sa femme est sa couronne. Et vous le connaissez aussi, mais vous ne savez peut-être pas qui le dit. Cette union est également vécue avec celle qu'il nomme sa sœur. Donc il dit « ma mariée, ma sœur ». Elle est sœur parce qu'elle fait partie de la même famille humaine. Ce n'est pas de l'inceste ici, ce n'est pas une sœur fille de son père et de sa mère. Non, elle fait partie de la même famille humaine, du même peuple. Elle a les mêmes valeurs, les mêmes références. Ce n'est pas une étrangère. Voilà pourquoi il l'appelle « ma mariée, ma sœur ». D'ailleurs, en passant, c'est un élément de plus qui souligne que quelqu'un en Christ est appelé à se marier avec un frère ou une sœur en Christ. Vous noterez que le bien-aimé est exclusif et très admiratif de sa mariée, dans ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est un premier élément que nous allons voir dans cette partie de l'union privée. Nous allons aussi constater que ce sont les premiers pas dans l'amour physique de ces deux amoureux. On va le constater ici dans ce texte. Et la troisième chose que nous verrons est que le bien-aimé qui a pris l'initiative va parler, va inviter sa bien-aimée, qui va aussi l'inviter, et ils entreront dans le partage et ils termineront par l'approbation. Commençons par cette partie de l'exclusivité admirative. Or là, je ne vais pas tout relire le passage ici, mais voici ce qu'il dit en fait en paraphrasant. « Tu es si belle, toi qui es à moi. Chaque partie de ton corps m'émerveille et je ne peux que te comparer à tout ce que je trouve de mieux en Israël et qui en souligne certains aspects. » Je désire vivre la jouissance de l'amour. Tu as capturé mon cœur. Je suis si bien avec toi. Voilà ce qu'il dit ici dans ce texte. Ça résume les versets 1 à 11. Et dans ce passage, l'homme va décrire sa belle des yeux au sein, en passant par ses cheveux, ses dents, ses lèvres, sa joue et son cou. S'il va jusqu'au sein, c'est parce que ce sont de puissants motivateurs à vivre la relation conjugale. S'il va jusqu'au sein, c'est parce qu'ils sont de puissants motivateurs à vivre la relation conjugale. Et c'est aussi pour cela que ces attributs ne devraient être présentés, montrés, moulés ou suggérés que à son mari. C'est aussi pour cela que ces attributs ne devraient être présentés, montrés, moulés ou suggérés que à son mari. Vous savez, notre société a un problème avec la nudité. Vous avez déjà vu ça ? Problème avec la nudité. Certaines personnes mariées n'arrivent pas à se dire des mots si magnifiques dans l'intimité du couple où la nudité ne devrait pas être tabou. Ils n'arrivent pas à lire ce texte de Cantique. Ils sont gênés. Mais en même temps, hommes et femmes sont désinhibés pour montrer ou suggérer leur corps à tous ceux qui sont autour d'eux. C'est bizarre. Vous savez, Dieu, après la chute, a donné des habits à Adam et Ève. Juste, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y avait personne d'autre, il n'y avait que eux. Pourtant, il leur a donné des habits. Et les habits étaient et sont toujours, selon Dieu, prévus pour couvrir la nudité. Et en dehors de la chambre conjugale, nous sommes couverts à cause du péché qui déforme le regard des hommes et des femmes. Les habits ne sont pas là pour mettre le corps en valeur, comme cela parfois est dit. On entend souvent, c'est pour mettre le corps en valeur. Ce n'est pas biblique. Donc les habits ne sont pas là pour mettre le corps en valeur, comme cela est parfois dit, ni d'ailleurs pour un peu cacher, pour mieux suggérer. Non, la nudité, la suggestion de la sexualité, c'est pour le couple et qu'ils le vivent avec joie, poésie et bonheur, dans la chambre avec la porte fermée, marquée privée. En fait, cet endroit, c'est le jardin d'Éden retrouvé. C'est dans le couple que l'on peut être nu, sans honte. Et la nudité est à garder uniquement pour ceux avec qui nous vivons l'acte conjugal. C'est important de saisir ça. La nudité est à garder uniquement pour ceux avec qui nous vivons l'acte conjugal, parce que se montrer nu à quelqu'un d'autre, c'est lui donner le message qu'il ou elle fait partie d'une relation où il est possible et bon d'avoir des relations sexuelles. Voilà le message. Se montrer nu à quelqu'un d'autre, c'est lui donner le message qu'il ou elle fait partie d'une relation où il est possible et bon d'avoir des relations sexuelles. Alors, non et non, le bien-aimé du Cantique ne décrit personne d'autre que sa mariée, avec des éléments qui nous permettent de comprendre qu'ils sont nus sans honte l'un avec l'autre. C'est exclusif, c'est admiratif. Il l'admire et il le lui dit. Et s'il n'a que elle, eh bien, il n'admire que elle. Et il apprend à l'admirer encore plus. Il va la chérir, l'aimer, l'admirer. Mahaney, dans son livre qui s'intitule « Ma femme, le sexe et la gloire de Dieu », que je vous recommande d'ailleurs, dit ceci qui était un des points centraux de son livre, qui développe en fait tout cela. Il dit ceci, et ça c'est quelque chose que, en tout cas les hommes, mais les femmes aussi, peuvent prendre avec eux. « Avant de toucher son corps, il faut toucher son cœur et son âme. » avant de toucher son corps, il faut toucher son cœur et son âme. C'est exactement ce que fait le bien-aimé dans le Cantique des Cantiques. C'est exactement ce qu'il fait. Il exprime son admiration avec des images qu'elle comprend. Nous, on a plus de peine, on n'est pas oriental, nous, avec ses chèvres et ses moutons et tout ça. Mais elle les comprend. Car elle sait ce que signifie de la comparer avec une colombe, des chèvres ou des brebis, ou même une tour ou des petites gazelles. Le bien-aimé est complètement ébloui par sa bien-aimée. Eh bien, mes chers frères Marie, continuez-vous à être éblouis par votre épouse? Ou vous laissez-vous éblouir par d'autres femmes à qui vous dites dans votre cœur ce que Salomon dit à la Sulamite? Mes chères sœurs épouses, continuez-vous à apprécier les compliments de votre mari? Ou aimeriez-vous plutôt les recevoir de cet homme galant ou ce héros de vos rêves romantiques? Si l'un ou l'autre s'est détourné dans son cœur, je vous en supplie, ne vous éloignez surtout pas de Dieu, mais allez vers lui pour lui demander pardon. Pour les maris, vous libérez de cet éblouissement concurrent et revenez vers votre épouse pour l'étudier, vous en réjouir. Et pour les épouses, vous libérez de ce désir concurrent et revenir vers votre mari pour recevoir ses mots d'amour et vous en réjouir. Et pourquoi je vous dis de ne pas vous éloigner de Dieu? Mais c'est justement parce que cette admiration exclusive du bien-aimé dans le Cantique des Cantiques pointe vers l'admiration de Jésus pour son Église dont nous faisons partie si nous sommes en Christ. Pour celui qui est en Christ, on pourrait dire, Dieu lui dit, tu es belle, tu es beau, ma compagne, en toi, point de défaut. Et vous savez, ce n'est pas un amour aveugle, c'est un amour bienveillant, qui est capable de voir la beauté là où nous voyons peut-être des cicatrices. Mais souvenez-vous, ces cicatrices sont peut-être le rappel de la naissance où il y a eu besoin d'aide. Ces rides, ces bourrelets rappellent l'histoire vécue ensemble. C'est ça la beauté. Apprenons à voir la beauté comme notre bien-aimé Sauveur la voit chez nous. Et alors nous serons à nouveau submergés par la beauté de notre conjoint et nous accepterons les mots d'amour. Pour ceux qui n'ont pas de conjoint, de voir ceux qui sont autour de nous dans leur beauté morale et spirituelle et nous réjouir de la beauté historique que Dieu nous donne. Toute l'histoire qui est marquée en nous, qui en fait fait la beauté de l'œuvre de Dieu dans nos vies. J'aimerais encore attirer l'attention sur le fait que nos deux amoureux du Cantique font leur premier pas dans l'amour. Il est dit dans Cantique 4:12, « Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée. » Le jardin, la fontaine, la source sont des symboles du lieu de joie intime de l'acte conjugal. Et c'est clos, c'est scellé. Cela signifie qu'elle n'a pas encore vécu l'acte conjugal. Donc le jardin, la fontaine, les sources sont des symboles du lieu de joie intime de l'acte conjugal. Ici, c'est clos, C-L-O-S si jamais pour ceux qui écrivent, et scellé, cela signifie qu'elle n'a pas encore vécu l'acte conjugal. Elle ne s'est donnée à aucun homme avant elle. Pour lui, elle est exclusive, comme pour elle, il est exclusif. Ce sont les cadeaux que l'on peut donner lors du mariage et c'est si magnifique, rassurant et bienveillant. Vous savez, si l'on n'est pas capable de garder les cadeaux avant, comment savoir si nous serons capables de les garder après? Si j'ai déjà donné ma main en signe d'amour conjugal à plusieurs avant le mariage, pourquoi je ne le referai pas après? Et pourquoi est-ce moins choquant avant que après? Évidemment, je ne vais pas vous faire la liste de tous les cadeaux que j'appelle les premières fois. Les premières fois, c'est des cadeaux qu'on donne qu'à une seule personne. C'est les premières fois. Je vous donne quelques-uns. La première fois que je te dis « je t'aime » dans une relation avec quelqu'un avec qui je veux vivre. Ce n'est pas le fait de dire « je t'aime » à mon frère, ma sœur en Christ avec qui on vit ensemble. Hein. C'est cette notion de « avec quelqu'un, je veux construire ». La première fois. La première fois que je caresse le pied sous la table avec un cœur qui bat d'amour. La première fois que je donne un baiser. Je m'arrête, hein. Je vous ai dit, je ne peux pas vous faire la liste, elle est longue. Hein. Mais parce que si je l'ai donné à quelqu'un d'autre que mon conjoint avant de le rencontrer, je ne pourrais plus le donner ce cadeau de la première fois. Et j'aurais en quelque sorte donné déjà une partie de mon cœur pour la relation conjugale à quelqu'un d'autre. Avec ce que je viens de dire, certains vont me prendre pour un fou. Mais ça m'est égal. Cela ne me dérange pas d'être un fou pour Dieu. Car je sais quels sont les bienfaits de se réserver pour une seule personne dans le plus de domaines possible et pas seulement pour l'acte conjugal. Certains qui se moquent de moi vont même jusqu'à dire « Mais si tu n'essaies pas, tu ne sais pas si tu seras compatible !» Ce genre de phrases m'abasourdissent. Car ce sont ceux qui pensent le mieux connaître l'anatomie humaine qui ne semblent pas du tout au courant que dans le domaine physique, il n'existe pas d'incompatibilité. L'incompatibilité est spirituelle, pas physique. Et celle-là, pas besoin d'essayer pour le savoir. La vie en dehors de la vie conjugale permet de se rendre compte. Je suis aussi conscient de la grâce de Dieu que lorsque nous nous écartons de l'idéal, Dieu ne nous repousse pas. Oh, t'as pas gardé ce cadeau. Mais non, il nous dit, viens, viens. Tous les cadeaux, Jésus les a gardés pour son Église. Viens, je suis là pour te purifier. Et si nous nous repentons, il nous transforme à son image. Nous ne devons pas nous mettre un fardeau. Ni dire, oh, est-ce que je vais tout... Ne nous mettons pas un fardeau. Mais soyons motivés par donner tout ce que nous pouvons à celui ou celle avec qui nous pourrons être dans l'avenir. Je parle particulièrement avec les jeunes. Donc soyons motivés par l'exclusivité qui ne doit pas être partagée même avant le mariage. Vous n'aimeriez pas vous marier avec quelqu'un qui a pris tous vos amis ou toutes vos amies dans ses bras. Cela me fait penser à Proverbes 5, 15 à 23, que je prends aussi dans le cadre de la préparation au mariage. Il y a plusieurs éléments dans ce texte. Mais je vous le lis par rapport à l'exclusivité et au fait que ça doit être vécu en privé. Il est dit « Bois les eaux de ta citerne, celle qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ainsi, pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une courtisane et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui aplanit toute route. Le méchant est pris dans ses propres fautes, il est retenu par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. » Alors les jeunes particulièrement, et puis tous les autres, on doit encourager ça. Gardez-vous pur pour votre futur conjoint. Et si les célibataires, vous ne voyez pas quand vous allez vous marier ou que vous ne prévoyez même plus de le faire, vous dites non, ça ne viendra plus, gardez-vous pur en cherchant toute votre joie en Dieu. Jésus s'est gardé pur pour son Église. Gardons-nous aussi pour lui, exclusivement pour lui, comme il s'est donné pour son Église qu'il aime, qu'il chérit, qu'il prépare pour le jour des noces. Continuons avec nos amoureux du Cantique des Cantiques, avec l'invitation et le partage. Nous voyons des paroles de bienveillance qui sont prononcées et des invitations. Par exemple, au verset 8, hein, « Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet de Séhir et de l'Hermon, des tanirs, des lions, des montagnes, des léopards. » Elle vient de différents endroits, même dans ses pensées, dans ce qu'elle a reçu, dans son éducation, etc., etc. Mais viens. Est-ce qu'elle est venue au moment où il a dit cela ? C'est pas dit. Il ne le dit pas. Le bien-aimé dit simplement, juste après ça, que son cœur est emprisonné par son amour. Et après avoir parlé du fait qu'elle est un jardin clos, qu'on a vu tout à l'heure, il lui dit, il lui donne espoir, son jardin va fleurir, il a tant de bons parfums, et il l'invite à nouveau. Il dit, éveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin et ses aromates, et que ses aromates s'en exhalent. Et là, il est important de comprendre quelque chose. Il ne force pas, il attend. Il ne force pas, il attend, il encourage, il réconforte, il respecte, il dit tout son amour et son admiration, il se réjouit de la tendresse vécue. Et c'est là que vient la deuxième partie du verset 16 de Cantique 4. Mais rappelons-nous, il ne force pas, il attend, il encourage, il réconforte, il respecte, il dit tout son amour et son admiration, il se réjouit de la tendresse vécue. Et c'est là que vient cette deuxième partie du Cantique, chapitre 4, verset 16. « Que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits exquis. » Elle l'invite. C'est un moment de partage et de joie qui est sobrement décrit ensuite dans Cantique 5, verset 1. « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je recueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. » C'est un bouquet de joie de tous les sens. C'est un état qu'il est difficile de décrire, car c'est un des états les plus euphoriques dans lequel l'être humain puisse être avec une bonne conscience. C'est véritablement un don de Dieu. Et je ne peux que vous encourager en tant que couple à avoir cette même attitude d'invitation, de patience, de partage, particulièrement dans le cadre de la sexualité. Je vous encourage, mari et épouse qui ont tendance à être les premiers à inviter, à le faire avec patience et en laissant la place à l'initiative de l'autre. Et si le désir devient trop impérieux, réfléchissez à ce qui vous motive et réglez peut-être ce qui a besoin d'être réglé dans votre vie pour vivre une sexualité plus posée et qui ne vous prend pas toute la pensée. Je vous encourage, mari et épouse qui ont tendance à ne pas répondre tout de suite, à réfléchir pourquoi c'est ainsi. Si c'est juste une question de personnalité, que cela soit discuté ensemble pour ne pas créer de fausses attentes. Si par contre vous n'aimez pas du tout la sexualité, cherchez la cause et réglez ça, parce que ce n'est pas normal de voir la sexualité comme quelque chose de sale ou de mauvais. Ce n'est pas biblique. Le Cantique des Cantiques le démontre bien. Mais il est vrai que des abus, des images, des antécédents familiaux, de mauvaises expériences, tout cela demande de faire face, de demander pardon, de confronter, de pardonner, en fait, d'être libéré. Et c'est possible, parce que Jésus-Christ est venu porter nos douleurs, nos défaillances. Il veut nous accueillir, il veut nous donner de vivre pleinement l'acte conjugal avec joie, paix et reconnaissance. C'est lui qui guérit aussi les blessures. Il veut aussi que nous vivions cela non pas comme une performance. Non, ça ne signifie pas tout le temps, mais quand c'est possible, avec une vraie joie qui produit une unité renforcée dans le couple. L'intimité de notre vie de foi avec Dieu devrait s'approcher de la joie, de la paix et de la satisfaction que nous éprouvons dans l'acte conjugal. Cette intimité avec Dieu devrait être si forte. Que d'être auprès de lui, c'est ce qu'on désire le plus. D'être auprès de notre Dieu. D'être avec lui tellement fort. Je disais vendredi soir que notre expérience de la sexualité révèle toujours la santé spirituelle de notre cœur. Donc soyons spirituellement en santé pour vivre des relations intimes encourageantes. Et le dernier point se réalisera. C'est verset 5, chapitre 5, verset 1, dernière partie, qui nous dit « Mangez, Amis, buvez, enivrez-vous de tendresse. Cette phrase, en fait, est adressée aux mariés. Et s'ils l'entendent, si les mariés l'entendent dans leur chambre de noces, ça peut venir que de Dieu. Parce que personne d'autre n'est avec eux dans cette chambre avec la porte marquée privée. Et cela me fait penser à tout ce que nous avons vu vendredi sur la sexualité made in Dieu. Si Dieu n'est pas au centre de notre vie, comme Dieu a adoré, éternel à aimer, créateur à obéir, alors nous ne vivrons pas notre sexualité de la bonne manière, même dans le cadre du couple marié. Et j'aimerais vous donner 3 questions à se poser lorsque nous pensons quelque chose de sexuel ou que nous vivons l'acte conjugal et nos deux conjoints du Cantique des Cantiques le vivent certainement. Ça fait un petit résumé de vendredi comme ça. Première question, est-ce que j'adore Dieu en ce moment ? Alors ça peut être, si je pense à des choses sexuelles, est-ce que j'adore Dieu ? Très souvent c'est non, je suis en train de m'adorer moi-même. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Run away, file, pars, cours. Hein ? Donc est-ce que j'adore Dieu en ce moment ou est-ce que j'adore autre chose, que ce soit moi, l'autre, le plaisir ou quoi que ce soit d'autre ? Nous pouvons bien entendu, dans le cadre de l'acte conjugal, vivre la jouissance avec reconnaissance et une grande satisfaction, comme dans le cantique. Mais ce n'est pas ça qui dirige ma vie. Cela signifiera, par exemple, peut-être une fois, de s'arrêter parce que l'autre n'est pas bien, ou qu'il ou elle est gêné par quelque chose. S'arrêter sans avoir un goût amer, où il peut y avoir, oui, il peut y avoir un peu de déception. Mais c'est Dieu que nous adorons et c'est en lui que nous trouvons notre satisfaction. Donc ça, c'était la première question, est-ce que j'adore Dieu ? Deuxième question, est-ce que je vis dans une relation d'amour envers Dieu et mon conjoint à ce moment-là ? Ou est-ce que je peux le vivre sans qu'il y ait de relation et simplement profiter du moment ? Dans le cantique, nous voyons clairement une relation entre le bien-aimé et sa mariée. Il y a admiration, invitation, respect, échange, dialogue, joie commune. L'acte n'est pas vécu en dehors d'une relation qui est vécue dans l'alliance du mariage. Et troisième question, est-ce que je vis dans l'obéissance à mon Créateur à ce moment ? Ou est-ce que j'écris mes propres règles que l'autre doit appliquer dans mon royaume ? Est-ce que je vis dans l'obéissance à mon Créateur en ce moment ? Ou est-ce que j'écris mes propres règles que l'autre doit appliquer pour mon royaume ? L'adoration, la relation, l'obéissance à Dieu, 3 fondements pour une vie qui est conforme à Dieu dans tous les domaines de notre vie et aussi dans la sexualité. Parce que la sexualité appartient aussi à Dieu qui en est le propriétaire, comme tout ce qu'il m'a confié dont nous sommes les gérants. La société ne dit pas ça. Elle dit que ça nous appartient. La parole nous enseigne que tout ce que nous avons appartient à Dieu, même la sexualité. Mais quelle belle parole alors d'entendre « Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de tendresse ». Dieu n'est pas contre la sexualité et toute la jouissance qui l'accompagne. Il l'encourage grandement dans le Cantique des Cantiques, accompagné de tout le reste de sa révélation. Nous comprenons que c'est dans le cadre du mariage avec une attitude d'amour réciproque. Et vous savez que nous allons tous ici, les célibataires aussi, vivre dans la joie d'une jouissance joyeuse et extraordinaire pour toujours lorsque les noces de l'agneau vont débuter. Actuellement, la fiancée, l'Église, dont chaque personne qui est en Christ fait partie, est préparée par le fiancé pour ce grand jour. Et alors, personne ne regrettera ce qu'il a vécu ici-bas. Même s'il a vécu un mariage fantastique, ce sera mieux. Et ceux qui n'auront pas goûté à la joie de la sexualité, qui est uniquement vécue licitement dans le mariage, ne regretteront pas de ne pas y avoir goûté, parce que ce sera mieux. Nous entendrons Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de tendresse, et nous pourrons le vivre sans fin. Quelle glorieuse perspective qui peut enlever de très lourds fardeaux. Bon, qu'allons-nous retenir aujourd'hui ? Un élément de l'union publique qui nous fait penser aux noces de l'agneau ? Un élément de l'union privée qui nous fait penser à ce lien très fort avec Dieu ? Moi, je ne sais pas ce que Dieu va mettre dans vos cœurs, qu'il veut que vous viviez. Mais je prie que nous puissions saisir que l'acte conjugal que Dieu a donné au couple est un cadeau extraordinaire et qu'il vaut la peine de le protéger, de l'encourager, de s'y préparer en cultivant toutes les attitudes dont nous avons parlé. Et je prie que chacun, en couple ou non, vous viviez une intimité avec Dieu telle que vous êtes satisfait et que le reste vient par-dessus avec reconnaissance pour ce qui est possible. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui n'évite aucun sujet. Éternel notre Dieu, nous sommes terriblement tristes de ce que le péché a fait avec le cadeau si merveilleux que tu as donné au couple. C'est tellement déformé que tous ceux qui ne peuvent pas le vivre parce qu'ils ne sont pas dans le cadre du mariage sont bien souvent révoltés contre toi, alors que c'est un cadeau que tu as donné. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour les fois où tous ici, mariés ou non, nous avons désiré quelque chose plus que toi, particulièrement dans le domaine de la sexualité. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner à chacun cette joie de vivre avec toi tellement proche, d'avoir une relation tellement forte avec toi, que nous sommes entièrement satisfaits et que nous pouvons dire « J'ai tout pleinement en Christ ». Dans le bon nom de Jésus-Christ, Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.